dans cette salle. Le CIPEN, donc, c'est un lieu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est situé à Marseille, et qui rassemble dans une partie d'un beau bâtiment à Marseille, à Les Charités, une bibliothèque, une très grosse bibliothèque de poésie et sur la poésie, une salle d'exposition, où on fait à peu près 8 expositions, toujours un lien fort avec la poésie dans cette salle, et une salle de spectacle, une salle de cinéma, lecture, conférences, débats, etc. Par ailleurs, en termes d'activité, on accueille beaucoup de maisons d'édition qui présentent leur programme éditorial et qui font lire quelques-uns des poètes qu'ils ont publiés, ou des revues, d'autres types de manifestations, comme des colloques, des conférences sur tel ou tel problème de la poésie. Et on a aussi une assez grosse activité internationale, d'une part avec des ateliers de traduction. Alors, c'est ou des ateliers de traduction où on invite un poète d'un pays qui vient à Marseille pendant 8 jours et qui est traduit par un poète français. Ça, on fait ça beaucoup avec des poètes des États-Unis. Et puis, par ailleurs, on a un programme de traduction croisée qui s'appelle Import Export. Donc, on a eu un des premiers, c'est passé il y a, je crois, peut-être une dizaine d'années à Tanger. Donc le principe, c'est trois poètes français viennent à Tanger, sont traduits par trois poètes marocains, puis les trois poètes marocains viennent à Marseille et sont traduits par les poètes français. Donc c'est le principe, non pas d'une traduction par des traducteurs, même s'ils sont ces ateliers, il y a toujours une personne qui aide à la traduction, au moins une première traduction littérale, mais c'est des traductions dont le résultat, l'aboutissement, est donné par des poètes dans la langue d'arrivée et donc dans l'ambition au moins est d'arriver à ce que dans la langue d'arrivée ce ne soit pas simplement une traduction mais aussi un poème. Ce n'est pas toujours facile. Donc ça c'est un programme, on a dû faire ça avec une dizaine de pays, beaucoup de pays de l'autour de la Méditerranée, mais pas que autour de la Méditerranée. Et la mémoire était venue et Caroline Sago d'ailleurs était venue à un import-export avec la ville de Bombay en Inde. Voilà, en ce moment on est en train de faire un import-export avec l'Arménie qui est en train de se terminer. La deuxième partie va se passer à la fin du mois. Et en principe, si tout va bien, ce qu'on espère fortement, il y aura le retour d'un import-export. La première partie s'est passée il y a au moins 3 ans. À Marseille, avec Ramallah en Palestine. Donc, les poètes français devraient aller à la fin de l'année à Ramallah pour être traduits en arabe par des poètes palestiniens. Donc, cet après-midi, vous allez entendre trois personnes. C'est aussi dans le domaine international. Donc, on reçoit à Marseille, des poètes étrangers. Donc, il y a à peu près 2 ou 3 poètes chaque année qui viennent en résidence à Marseille pour des périodes de 2 à 3 mois. Et suite à cette résidence, on publie un de leurs livres. Et pour les poètes français, on envoie ces poètes sur des villes du pourtour méditerranéen. Alors pour le moment, ça a été Tanger depuis pas mal d'années, Beyrouth et Saïda au Liban. Et en principe, à partir de l'année prochaine, le Pirée en Grèce. Et donc là, vous allez entendre 3 poètes donc, qui ont été en résidence, ici à Tanger. Donc, dans l'ordre chronologique, tout d'abord, Caroline Sago-Duborou, qui est au centre, qui est venue il y a 3 ans. Donc ici, pendant 2 mois, suite à cette résidence, qui a très bien fonctionné, puisque Caroline revient régulièrement à Tanger, je crois qu'elle est tombée amoureuse de cette ville. Suite à cette résidence, donc, Caroline a publié, nous avons publié le livre de Caroline, Canto Rosado. Caroline a une œuvre importante derrière elle, chez de nombreux petits éditeurs, mais aussi, elle a publié 7 livres chez José Corti, dont le dernier s'appelle Le Livre d'elle. Où effectivement il y a aussi des réminiscences de Bombay, de Tanger qui apparaissent. Daniel Mémoire, donc, qui est venu il y a 2 ans à Tanger, pareil, pour une période de 2 mois, il est revenu ensuite un peu plus tard pour participer à des lectures au moment des correspondances de Tanger qui avaient eu lieu il y a un peu plus de 2 ans. Elle a publié visiblement, avec, elle a écrit peut-être, visiblement avec difficulté, un livre que nous avons facilement publié, dont le titre est « J'ai pas envie de faire ma page ». Tout est dit. Daniel Mémoire a publié de très très nombreux livres, je crois 17 livres, aux éditions POL, qui est un des éditeurs importants pour la littérature contemporaine en France. Dans le titre du dernier est « Hiératique debout », qui est paru il y a 1 an à peu près. Et enfin, le dernier résident, mais en même temps historiquement le plus ancien résident ici à Tanger, c'est une espèce de résident général, Philippe Didier Bologne, bon, pour des raisons, toutes ces manifestations, tous ces programmes sont plus ou moins rigides. On décadre, bon, il arrive qu'on sorte du cadre. Donc Philippe Didier Bologne n'est pas venu de France pour résider à Tanger pour le CIPL, mais il réside à Tanger. Et donc il nous a proposé un livre qu'on a publié qui s'appelle Détroit. Alors, c'est le premier livre de fiction, on va dire, de poèmes de Philippe Didier Bologne, qui par ailleurs s'était occupé pendant pas mal d'années à Tanger d'une revue qui s'appelait Détroit, la lettre D, le chiffre 3, qui avait fait un guide. Moi, c'est comme ça que je retrouvais évidemment Philippe Didier Bologne, puisque quand je travaillais justement sur cet import-export avec Ramallah, le retour était compliqué à faire, et d'un coup, en pianotant sur Internet, je vois Philippe Didier Bologne qui avait dirigé donc, le centre culturel français à Ramallah. Et je me dis, mais je connais ce nom. Et effectivement, après en fouillant dans ma bibliothèque, je me suis souvenu que c'était l'auteur d'un très très bon guide sur la ville de Tanger, un guide qui date de 95. Oui. Voilà. Et donc il m'avait marqué, donc il avait retenu le contenu notamment. C'est comme ça qu'après on a noué contact. Donc vous allez entendre successivement, et sur un ordre qui a fait l'objet d'un très très long débat hier soir, puisqu'on a quand même discuté presque 4 heures, vous savez dans quel ordre, c'est 3 heures à les lire. Donc d'abord Daniel Mémoire, ensuite Philippe Didier Bologne, et enfin Caroline Savaud-Duvaureau, qui, je laisse la parole aux trois, donc en commençant par Daniel Mémoire. Merci.
Scène 4. Tout cela ainsi que l'on avait lieu de le craindre est terriblement ennuyeux. Et un intermède serait le bienvenu. Pourquoi l'on peut songer à recourir, en vue de ne pas démesurément multiplier les références, à l'enfant et les sortilèges. Le charmant morceau des pâtres et pastours fera heureusement l'affaire. Ils pourvoiront, pour peu qu'ils soient à même d'assez passablement chanter les figurants dans le fond de la scène, qu'il faudrait à cet effet idéalement 2 hommes et 2 femmes, comme on aura dû le préciser plus tôt. L'acolyte tire un crayon de sa poche, parcourt du regard le cahier qu'il tenait à la main, s'arrête à une page, note quelque chose. Que les figurants soient à même d'assez passablement chanter fait d'eux un peu plus que des figurants précisément, et il conviendra sans doute d'avoir trouvé un mot meilleur. L'acolyte, les yeux au ciel, un point sur les lèvres, marque ostensiblement un effort de réflexion Il secoue la tête en signe d'échec. Nous conservons provisoirement, encore que le jugeant impropre, ce terme de figurant. L'acolyte referme le cahier et croise les bras. Les figurants, le ton qu'ils chantent, abandonneront chaque fois leur position figée pour esquisser, sans toutefois quitter leur place, les gestes qu'ils jugeront les mieux aptes à signifier la grâce des pâtres et pastours avant de s'immobiliser à nouveau les bras croisés. La musique naïve de tambourin et de pipeau sera rendue au piano seul. Scène 5. Les pâtres, adieu pastourel, les pastours, pastoureaux, adieu. L'interprète, me livrer à mes fantaisies coutumières m'aurait semblé faire preuve d'ingratitude. L'acolyte, vous vous livrez à vos fantaisies coutumières. L'interprète, je pensais me devoir en quelque sorte au lieu, à la ville. L'acolyte, vous ne nommez jamais la ville. L'interprète, elle n'est jamais nommée dans Hécate et ses chiens. Les pâtres, les pastours, nous n'irons plus sur l'herbe mauve, paître, nos vers, moutons. L'acolyte, vous ne décrivez rien, jamais, à peine si vous évoquez une fois ou l'autre dans les trottoirs, sur la chaussée, les fondrières. Les pâtres, là, c'est notre chèvre amarante. L'interprète, et au grand café de Paris, le patron du number one, un jour, qui était venu me dire « Il faut faire attention ici où vous marchez, tous ces trous, vous avez trébuché devant chez moi hier soir. » Scène 6. L'interprète se lève, va prendre au pied de l'acolyte la longue pièce d'étoffe dont il se drape grossièrement dans l'approximative imitation d'une robe. L'acolyte. Il faut faire attention, madame, ici où vous marchez, tous ces trous. Je vous ai vu trébucher devant chez moi hier soir. L'interprète laisse tomber la pièce d'étoffe et regagne la table. Il se rassied, l'acolyte, et vous n'avez donné aucune raison qui vaille. Les pastours, las, nos agneaux roses tendres, les pâtres, las, nos cerises zinzolins. Les pastours, notre chien bleu, scène 7. L'acolyte commence la scène 7. Personne n'est entré, ni personne n'est sorti, rien n'a eu lieu. Il ne peut y avoir eu un changement de scène. L'interprète, mais j'ouvre le cahier qui est devant moi sur la table. J'en tourne à la hâte les pages, m'arrête à l'une, que je pointe du doigt, scène 7. C'est ce qui est écrit. Les pâtres, les bras tendus, pastourelles, les pastours, la bouche en cœur, pastoureaux. L'interprète, du moins, c'est ce que je lis. L'interprète prend le cahier, le rapproche de son visage, plisse les yeux, repose le cahier, se lève. L'interprète, on ne voit pas très bien. C'est peut-être un autre chiffre, c'est peut-être une autre scène. Ce n'est peut-être pas une scène du tout, l'encre est délavée sous l'effet de l'embrun. L'acolyte, l'embrun, parlons-en. Très brièvement, les figurants dans le fond de la scène font mine de s'esclaffer avant de reprendre leur attitude figée. L'interprète, mes références sont entre elles discordantes, c'est le post-écritem. Très brièvement, dans le fond de la scène, les figurants haussent les épaules, secouent la tête, lèvent les yeux au ciel. L'interprète, vous avez beau partir au loin, et pour un temps assez long, vous ne pouvez pas faire que, non pas peut-être le noir souci, mais certainement vos soucis coutumiers et coutumières, donc vos références, votre mince savoir, telle de vos manies, telle de vos hantises, vous ne les preniez en croupe. La déesse blanche paraît à l'avant-scène, côté court. Idéalement, et par exemple, s'il s'en était trouvé un parmi les neveux de l'auteur qui eût accepté de tenir ce rôle, elle tient, de blanc vêtu, un enfant à la main. Acte 5. Scène 1. Un pâtre. L'enfant méchant a déchiré notre tendre histoire, pâtre de scie pastorelle de là. L'acolyte commence là, acte 5. Personne n'est entré, ni personne n'est sorti. À peine si les figurants dans le fond de la scène se sont un peu rapprochés les uns des autres et se tiennent-ils maintenant tous quatre, du reste toujours debout, bras croisés, la mine sévère, contre le dossier du banc le plus proche des coulisses côté jardin. Je me tiens moi-même debout à quelques pas derrière vous, sur votre gauche. Vous êtes assis de nouveau à la table. Vous n'avez pas fini de donner vos raisons. La déesse blanche, l'enfant à la main, se tient toujours à l'avant-scène, côté cour. Il n'y a aucun changement de décor. Rien enfin ne permet de parler d'un nouvel acte. L'interprète, non, peut-être, en effet, mais je ne peux pas vérifier, je n'ai pas le texte. L'acolyte, vous n'avez pas le texte. Les figurants, il n'a pas le texte. L'interprète, je ne l'ai plus. Je m'étais assis sur un banc face à la mer. J'avais à ma droite la Méditerranée et à ma gauche l'Atlantique. Face à moi, je voyais l'Espagne et il me semblait que c'était un banc sur la carte du monde. L'acolyte, peu importe, mais le texte. L'interprète, il en existe, comme vous le savez, plusieurs versions. Il faut plusieurs cahiers. L'acolyte, bien donc, ces cahiers. L'interprète, je les avais posés près de moi sur ce banc. En m'en allant, j'ai dû les oublier. Les figurants, en s'en allant, il les a oubliés. L'acolyte, et vous ne vous en êtes pas aperçu, vous n'êtes pas revenu les chercher. L'interprète, il n'y était plus quand je suis revenu. Celle d'eux, un pâtre, une pastourelle, l'enfant méchant qui nous doit son premier sourire. Les figurants, avec un parfait ensemble, pivotent vivement sur eux-mêmes. Puis ils s'écartent les uns des autres et entreprennent de transporter les deux premiers bancs à compter des coulisses côté jardin pour les disposer à l'avant-scène. Cela fait, deux des figurants viennent se ranger l'un près de l'autre à quelques pas derrière l'acolyte sur sa gauche, présentant à l'assistance le profil droit, ou du moins le premier des deux qui largement masque l'autre présente-t-il ce profil. Les deux autres figurants vont jusqu'au fond de la scène, ils se lèvent le troisième banc, sans prendre garde au cahier qui tombe du siège sur le sol. Il rapporte le troisième banc vers l'avant-scène où il le place dans l'alignement des premiers. Le déplacement des bancs ne se fait pas sans agitation ni désordre, en contraste avec le caractère étudié et mécanique presque des gestes partout ailleurs au long de la représentation. Les figurants ont beau mener grand bruit, l'assistance n'ira pourtant pas jusqu'à croire qu'il pourrait se faisant couvrir la voix de l'interprète, lequel en effet feint seulement de parler, exagérant les mouvements de bouche qu'il ponctue en outre de gestes de la main, scène 3. Les deux figurants qui portaient le troisième banc rejoignent les deux autres de manière à se tenir pendant quelques instants en ligne parallèlement à la coulisse côté court. L'interprète continue à discourir en silence. Les figurants se déplacent de manière à se retrouver en ligne toujours mais parallèlement à présent au fond de la scène faisant face à l'assistance. Ils se tiennent immobiles, les bras de nouveau croisés, de nouveau la mine sévère. L'acolyte aborde même bras croisés et mine sévère. Toujours poursuivant son silencieux discours, l'interprète compte quelque chose sur les doigts d'une main. Il secoue la tête, met fin à son discours. Il élève à hauteur des épaules les deux mains qu'il ouvre dans un geste d'impuissance. Il les laisse retomber le long du corps. Il s'immobilise, scène 4. L'acolyte, l'interprète et les figurants fredonnent, bouche fermée, la mélodie de la Cassida d'Alburda. La déesse de l'ombre, l'enfant à la main, traverse la scène en avant des bancs. Parvenue à l'extrémité de la scène, côté jardin, tous deux s'immobilisent dans la position exactement symétrique de celle qui était la leur, côté court, scène 5. L'interprète vient lentement s'asseoir sur l'un des bancs et demeure là, le regard perdu. L'acolyte et les figurants s'égarent à travers la scène qu'ils parcourront sans se lasser, avec lenteur, les uns, comme on voit sur les boulevards, à l'heure du passeo, plus vite les autres, comme nous faisions, nous prenons les pieds dans les trous des trottoirs. Lorsque deux d'entre eux se trouvent face à face, ils se saluent très cérémonieusement, avant d'échanger les propos desquels c'est à peine si l'on entendra les bribes suivantes, lesquelles pourront se chevaucher en outre. Il a dit que pour le Détroit, mais un lieu a-t-il dit plus d'un siècle durant, n'a-t-il pas dit qu'il percevait là une manière d'académisme, et aussi que hors de très rares expériences, mais qu'il perçut comme animal presque, si examiné, a-t-il dit si vanté, pour le franchissement de nos jours du Détroit, comme archaïque, comme élémentaire, violente dans tous les cas, sinon brutale, si décrit, si lu, si chanté, dans ce qu'on appelle, a-t-il dit, un bon écrivain. Il reste à son goût trop du bon élève. Rares et enviables, assurément, a-t-il dit, ceux de qui la langue, ceux de qui la colère, et qui semblent, lorsqu'elles ont nom, fuir de toutes parts. La fragile enveloppe de ce nom, si exercé, il l'a dit dans l'art de plaire, et que aussi bien ce qui se démontre dans l'espace imaginaire du poète. Il ne met, a-t-il dit, de monde que dit. Valet, a-t-il dit, métaphysiquement, des bateaux gonflables, des jouets de plage. Que l'explication serait décevante, il l'a dit, et qu'une formule parfois prise au hasard des pages d'un journal, métaphysiquement, c'est ce qu'il a dit, des bateaux gonflables, des jouets de plage. Doutant bien moins, a-t-il dit, de sa justesse que du désir qu'il a de sa justesse, mais de monde dit par un autre, valet, a-t-il dit, métaphysiquement, ce qui se passe de plus sanglant dans le monde. Il a dit n'écrire jamais que de Drétnien, de plus sanglant dans le monde. N'a-t-il pas dit, sur mon cheval, des bateaux gonflables, des jouets de plage, car c'est cela, a-t-il dit, et des noms de lieux sous la condition du rêve, des bateaux gonflables, ou d'un analogue du rêve, des jouets de plage, cela qui dans le monde, a-t-il dit, des bateaux gonflables, fait couler le sang des jouets de plage. Scène 6. L'acolyte et les figurants s'immobilisent où les ont menés leurs pas. Avant qu'ils aient fini de chanter, on commencera à entendre de plus en plus fort la Qasida al-Burda, laquelle, lorsqu'ils se tairont, se poursuivra encore quelques instants. Une pastourelle, l'enfant ingrat, qui dormait sous la garde de notre chien bleu, là, de notre chèvre amarante, un pâtre, là, nos roses et verts moutons, les pâtres, adieu, pastourelle, les pastourelles, pastoureux, adieu.
Cool summer, susurrait-il à travers ses lèvres brillantes d'appétit, arraché à coups de dents un grain de ferveur, éclat de sourire flambant dans le vent doux, gorgeous and so brilliant, smoothy and light, the street. Dévale, dévale, dévale ces marches à n'en plus finir qui sur les plages viennent s'échouer, la pluie battante dévale en torrent et furieuse rigole. Les chats hagards et dédaigneux regardent, dévalent ces marches où des enfants sans chaussures fument d'humides mégots. L'appel à la prière résonne dans l'air saturé de bruines acier. La terre exhale ses parfums de racines et d'huiles éculées. Quand un vieillard rangé là-bas de ruines s'arrête pour savourer ce monde-là, à lui entièrement, et prier Dieu pour bientôt mourir. Pâles façades sans âme, aveugles et muettes, quelques bouffées d'herbe brûlées à leurs pieds, un rat mort et le cri d'un goéland affamé, rouge d'ocre étalé en aplats gigantesques, d'une fenêtre close, un rideau sale frémit, derrière, à peine le regard d'une adolescente, farouche et magique. Son corps d'onguent souple et satiné, alléché de la couleur du miel, corne de gazelle et l'aube qui d'un soleil blanc frappe ce bonheur de toute son évidence. Paravent de lin tendu, froissé, vert d'eau et bleu pétrole confondus en écho aux agarades colorées du Détroit, où l'acacia de son arrogante fierté rond le lent ondoiement du ressac. Une chambre bien domestiquée offre la fraîcheur. et une vue sur les mauves courants océans, échouée sur de brûlantes plages noyées d'enfants. Adossée au vide dans sa djellaba d'acrylique bleutée, elle semble l'essence de l'attente, humble et anéantie, et si peu existante. Rue des Doutes est sa dernière adresse. Les enfants jouent et crient et courent. Elle patiente en leur souriant sans le savoir. La deuxième lune s'est levée dans le ciel quand elle perdit sa babouche. Un vaste trois mâts effilé pénétrait alors dans le port. Le drapeau du consulat était en berne. Elle se pencha pour récupérer sa chaussure, effleurant l'arabesque de crasse sur le sol. Les gitons de l'ombre, dont seules les lames illuminent, floués serpentins arpentent, les rues de la nuit qui dévalent au corps, drogués, ivres et hurlant, criant, riant, vivant, et la peur au ventre. Deux silhouettes contre un mur, décapitées et graffitées, au soleil rasant. Ne pas se retourner et laisser le temps écouler, Angers discontinue est là, énervée et hagarde. La lune se lève et boit. C'est ce bouquet de chrysanthèmes que je t'ai offert, posé sur ta mémoire où il fleurit, vaste coupe d'écume figée, réceptacle des crachats du soleil et des orages d'étoiles, à cœur ouvert palpite, somptueux et frissonnant canope. Sa maison bleue, coquille de silence, mur de pelure, de papier s'envole, les fenêtres s'y soulèvent avec le vent, l'odeur du sable et des maquis baigne les chambres, une poignée d'amandes sèches sur la table, une grenade gorgée somnole sur le plancher, l'été s'épanche avec délicatesse. Songeuse petite de la playa, prêtresse en son bouge de couleur et de rail, ton profil frappe, se saisit de moi entier, famille, cône et totem, grain de beauté, miroir du monde, indifférence mêlée d'un ancestral désarroi, ta glaçante séduction me hante. Je ne sais plus, lui, l'autre, son reflet. Son profil de petit mâle glisse sur une vitrine, une flaque, portée par un brave rayon de lumière. Et lui, le sourire, 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 ma naïve stupéfaction appelant son reflet. Elle fume, elle parle, au grand café de Paris. Odeur âcre et amère du mar, suave menthe et âpre tabac. Le siroir à genoux est concentré. Elle parle et dit si peu de choses, quelle sombre beauté. Jetée dans les vagues de mousse et d'écume, frissonnante à un soleil du printemps, blancheur lumineuse du sourire, l'eau perle sur la peau sombre et hérissée, picotement et tiraillement salée, replongée dans l'onde tourmentée, éclat de rire et soubresaut d'un torse au-dessus des vagues. De palmes colorées et de colis fichés, des larmes de rhum ambrées, des rires en éclats argentés, la nuit va à sa mélancolique fête, célèbre sa fin qui n'en est pas, balance dans le vide les lampions, un vieil air de rail enroué et quelques pas fatigués, déjà la rosée lèche les campagnes. Vol éclos, rideaux tirés, un ray de soleil déchire le lin, voix cassée vissée au linteau. Elle dit que l'été est loin déjà. Sur une note iodée et un bouquet d'algues, elle rallume une cigarette trouvée dans un cendrier. Est-elle encore passée à côté, elle qui déjà a tant attendu? Reflet, reflet dans un œil d'or, sur le pavé de béton battu de crachats, juteuse, sa forme glisse et se noie. Je le sens courir et suer. Il s'évapore entre les lèvres d'un ton jeté. De teint là aux taches essaimées, le miroir reflète ce qu'il refuse. Et loin, là-bas où jamais personne n'est allé, te repousse jusqu'aux confins de ta propre sordide éternité. C'est ce poudroiement qui m'a bouleversé, comme l'impressionniste peint la mer, sa délicatesse insaisissable et sa force sereine. Mais la ville ici voit aux rivages épuisés, en grands aplats de lumière et de rouge et de jaune et d'ocre et de senteurs de chair grillée, puis le blanc et l'argent et les musiques troubles s'y fondent, orientales et populaires, et louvoiement, où le poudroiement du détroit lui-même n'est plus que le scintillement d'une pauvre guirlande. L'odeur des figuiers affolés dans l'OTAN, mêlée à la saveur salée des embruns, les acides de la chaux à peine étalés, les herbes ravageuses recouvrent leurs joues émeraudes, où l'automne frôle les derniers soupirs de l'été. L'envahissement lent de la subtile fraîcheur reprend alors un souffle apaisé et sûr. L'esprit des persiennes se dessine de lumière, où je laisse mes songes s'accrocher. Autant de coches rieuses hissées sur les raies, le crépuscule adoucit le tableau. Quand, entre les lignes du soleil épuisé, crépitent les cris des enfants dans la rue. Funeste soleil blanc de l'automne, asphyxie de tous les désirs, enveloppe chaque élan d'une mortelle torpeur. Le monde anéanti et épuisé, et l'esprit émietté et hagard, vient le temps des sombres sentiments auréolés des remugles d'un large tombal. Dans le cherbi, je pressens la lèvre, sifflement apeuré dans les ronces accrochées à la falaise, ou la note finale de cet air de flûte pastorale, l'initiale de ton nom chuchotée sous le soleil, l'arabesque d'un parfum dans l'air lourd avant la pluie, une prière ultime soufflée en remerciement de tout cela. Dans cette aube orphique où le gris l'emporte sur le gris, les larges aplats de silence soyeux, texture d'un nouveau jour paisible, la plénitude de qui vive apaisée. L'aube navrante et humide drapée d'indélébiles ombres, le premier ferry fend le détroit de son écumante volonté. Les dernières filles, aux haleines givrées de mauvais alcool, piaffent à la quête de sommeil agité, où un homme entremêle ses jambes lourdes et épaisses. Clignotement d'or et de chair, la nuit de la Cali Rubens rugit d'éclat. Les pleurs d'hommes trop ivres pour mentir encore, des filles au rire de titans prêts à dévorer, les orchestres assouplis font danser un borgne et sa suite, éculé, mais ce que d'autres ne veulent voir, un bonheur affiché comme un voyou gonfle sa poitrine. Les remparts dessinent une ligne de fuite, traits de murs malades prêts à sombrer, accrochés de cyprès dévastés par les vents, et des brassées d'arrogants bougainvilliers éclatant de leur santé assoiffée et turbulente. D'autres murs ou des fenêtres sans huis donnent l'ombre, des mystères sans profondeur s'y protègent. Au fond de Bouknadel, la baie indigo parme et turquoise, un ferry de lumière sonne de sa corne, la joie des départs. De ces amertumes inédites, dont tu parles le moindre de tes gestes, chacun de mes espoirs, la blancheur astrale de ta peau comme un écran que j'effleure à l'en défaire, l'embout de ce pétale que tu me refuses à humer, ton regard et ma résistance. Vient le temps d'un silence de mer sous la nuit, une dernière parole affrayée parmi les cieux ancrés brillants. Je me donne à toi en temps à reprendre. Je te suis notre avenir que j'esquisse, déjà et fébrilement. Attends-moi où tu crois qu'encore je ne suis pas.
Bekel, Bek. Limbe et l'aube, à Tanger, deux marges de l'enfer bougent, avec cantos roulés d'oubli des bâtisseurs. Le canton, galets roulés de socle, ce fut le temps. Rien de racine, un souffle, allié du sable et du sel, le façonnier du canton. Vent l'ouragan jusqu'ici, la rôde d'hier à là-bas, froissant la voix des roches sous la peau liftée d'une mesure, tapons d'avant, scandale terrible, cantôt que le rodado roule. Versification du perdu, une voix passe au temple chu. Le cher Guy chaud une fin de partie, verse un boisseau de poussière sur l'irrégularité. Le zéphyr et la burle tombent au cher Guy. C'est un silence que ramasse l'enfant. Récit. L'aube ne franchit rien jusqu'à l'aurore d'un trait. Bifure d'encore d'aurore ce matin. Comment dire, ne franchit rien, puis c'est l'aurore. Rien, mais à rebours, l'aurore. L'aube ne franchit pas, ne sait pas, ne sait rien. L'aurore fend l'infranchi. C'est arrivé, oui. Percutant la folie sauvage, la bête noire au laisser truculente, gros bétail ou tranchait, fut l'aurore d'une formidable raison. Quand elle s'arrivait, nous avions une raison formidable, vivre. On a transporté la brière, ça c'est fou, sur la baie déchirée. J'ai la brière aux pattes. La plate s'égare dans les clavoutis du rêve. On se souvient vaguement. C'est arrivé donc. On n'a pas pris la perche pour traverser debout. On rame, Dieu qu'on a mal au bras. Le marais flotte sur la mer. On ne veut pas d'hier. On est là pour qu'apparaissent un prince et un brigand, des saveurs et des mouettes. On ne sait rien. Qui pose les questions? Les mots, non. Une arthrose aux élancements du désir et du mal. Le vieux ficus du Grand Soco lance ses pistes. Vie, invente. L'évolution? C'est venu comme ça, là, par un surgissement d'ailleurs qu'on n'a pas chassé. Un jardin au bord d'un précipice enclos par une ville. Impossible. Un jardin adossé d'une ville enclos par un précipice. Un bord, le cercle rampe jusque trop loin. Dedans, décharge un bord où crânent les petites ailes. On est empêché. Près d'un consulat de France, au seuil de la rue de la Liberté, un passeport. Trois couleurs, avec mots qui retiennent l'habitude. Galerie, de la Croix, c'est quoi l'histoire? Le boulevard Pasteur jusqu'au consulat de France, donc. Les paresseux en place, sur leur place dévolue, avec canon pointé sur l'arrogance du Nord, avec soleil, Espagne, Espagne au désarçon d'espoir, la fille s'enfonce dans ne rien savoir d'une ville, s'enfonce où ça monte, l'habitude, reconnaissante à l'étranger de ne se confier qu'à ses pieds. Piétine donc ailleurs, là, par inadvertance, au boustrophédon d'ici. Enclos, l'espace russe avec le temps, les visages et les sons. Des gorges râpent une douceur. Une douceur foutue de vent. Tout ça se sent très bien. Consulat donc, les oies, il y a des oies, rue de la Liberté. Tout début, gauche, quand on monte encore pour redescendre tout de suite, presque, vers galerie plus de la Croix. Stop. Automatique. Sorte d'aube quand? Plusieurs déjà. D'aube. Non, une. On verra ça plus tard, bien trop peur, préfère un tout de suite mou, la fille, deux mots, entrée, dans du sans mots, on fabrique, normal, l'habitude, ça donne ça. Ne faudrait dire Tanger qu'à la fin de cet état, dans. Dans, viendra-t-il ou c'est un bord? C'est dit qu'importe, ça n'est qu'à, puisque dans ne viendra pas cet embord. D'où donc. Une affaire nous regarde. Un peuple. Vous sentirez comme les peuples enfants ont dû narrer leurs dogmes et légendes et faire une histoire de chaque vérité morale, écrit Jules Michelet dans Le Peuple. Le grand Pan est mort, écrit-il encore, la sorcière. On disait peuple. Le dieu Pan n'est pas mort. Il revient de panique, emporte un chaosmos et juste hors de panique, il instaure une image dans l'allégresse. Une enfance. L'allégresse tragique, l'enfance de l'art. On a joué jusqu'à tomber, on dormait quand on a touché sol au paradis. Ara d'Elzo, jardin d'enfance alentour rampant, chevauché par un désir d'enfer, on est. Un désir? Non, pas exactement, peur succube. Des incantations voient le monde par les trous de l'image. Nous tombons dans le monde. Oh, que cette affaire nous regarde, par exemple. On aurait torturé des hommes. On aurait drogué les hommes avec des simples et des discours. Des hommes auraient ramassé la réalité éparpillée par les récits. Kantos, oui. Sans le récit, rien n'a lieu. Entre les mots, l'aurait pressé comme un fruit. Avec les mots, l'aurait tranché menu. Une grammaire l'aurait rebouté. Des hommes seraient revenus de rêve pour cimenter les fragments des grands récits qui courent le monde. Ils auraient imaginé, puis fabriqué la marmite à image et à soupe aussi qui cuit depuis 6 millénaires. Important, la marmite, où se mélangent les représentations aux matériaux. Ils auraient fait d'imagination leur servante, une veilleuse sur le décor qui se vide, le gardien de l'Ipsus. C'est ainsi que va s'ébore la voyelle qui épouse un canto. On a détruit la maisonnette du grand-père, celle du père aussi, tous gardiens de l'Ipsus. Ils ont dit les peintures sur les murs ne conviennent pas, autant extraits de fouilles. Il y a 2 petits tas de pierres près de l'arsenal romain. Le gardien dit, je garde les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Arabes et les gardiens. Personne n'est allé déterrer les ruines maures d'avant-avant, d'avant les empires d'avant. Par exemple, c'est à l'Ipsus et c'est juillet le 31, le jour replet du pouvoir de César, que jalousera Auguste au point de dérober à février ce qui le postera sur son 31 d'août. Le jour qui manque où nous veillons. Le jeune homme est gardien, 23 ans peut-être, son père l'était, son grand-père. Il guide et veille sur les ruines romaines, phéniciennes, carthaginoises et arabes qu'on aperçoit entre les sentiers du rocher, face au nouveau monde. Tracé pour nous, les chemins. Parle aujourd'hui de culture qui noie ses petits dans la com. Loin du commerce des regards, dans le marché des visibilités. Les ruines, minuscules, des maisonnettes du père et du grand-père, donc, terminent la visite guidée par le fils. Les hommes, faut-il croire, ne conviennent que morts aux instances culturelles qui détruisirent donc 2 petites maisons aux pierres identiques à celles des Romains les plus pauvres. Sont alors venus à pied, sous le soleil cuisant, le grand-père, puis le père, puis le fils, continuer de veiller chaque jour pour quelques dirhams et la gloire de fréquenter les siècles sur les bâtisseurs morts et les nécrophages vivants. Le jeune homme me confie, je boite, c'est important, une boiteuse porte le malheur à nos places, et les jours manquant au lieu commun. Désormais, dit-il, je garde les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Arabes et les gardiens. Ainsi les mots, ainsi les hommes, ainsi le peintre, singulier, idiot, veillant au tremblement du feu, loge-t-il un peu d'universel sur son lopin de ruines et d'herbe. Les mots ont donné lieu. Au tracé des écarts, anagrammes et cantos veillent aussi, et portent. Ici. Mais ramassons la phrase dans la perte de vue. Là, qui fut loin avant d'être bas. Des hommes auront pris la cendre et la sueur des explosions nucléaires, des autodafés, des charniers réels, des idéaux, monothéistes, parce que sueur et cendre se proposaient à la main, à l'oscillation de la main dans la réalité du monde, et que la salive et le sang mouillaient la farine du gâteau. N'importe quel ce monde. Et n'importe quel fut ce monde dans l'incertitude. Ce n'importe quel monde de Ouarzazate, par exemple, ou des Saouira, quand les pieds et les mains ont beaucoup lu déjà des chemins. Ces mains-là, charpentières, maçonnes et bergères, quand les pieds typographes. C'est alors que les mains confièrent à l'œil la remue des signes et des couleurs au boustrophédon de ici. Et la main s'attelle à l'œil, charrue du façonnier d'image, image de rien, image réelle, celle-là. L'œil berger, les mains chiennes et les pieds à l'étude. Alors l'œil investi fédère, chaman et clairvoyant, le pluriel, l'insignifiant, le minuscule, en même temps que la légende singulière qui raconte le minuscule et lui fait gloire. Un lézard, une salamande, un masque d'idiot, la gazelle, tiens. La bave de l'immuné, c'est un lion ça. Un agglutinant, une colle. Et puis ça commence, c'est une colle pensée, quand les mains touchent encore aux copeaux légers de l'histoire rabotée par les hommes. Et l'homme sorti d'espèce, cuit à point, dit « je suis un homme » sans savoir ce qu'il dit. Alors l'œil attelle ses mains, socs ou cèpes et manches ronds et larges, tout, du dental au misérable. Arrère, front et dos sursautent parmi les cantos. Tout retentit, là, sous la main qui sillonne. De l'informe à l'informe, en passant par la chose. Et l'insolite, ce qui arrive, quand l'œil veut. Alors la pâte lève dru. Les ingrédients prennent au rêve et l'homme en teste longuement l'efficacité, la solidité, la souplesse, la chair. Longuement. Comme longuement, Van Gogh méticuleux questionne l'épaisseur pour qu'une matière survive au désir. Et elle dure. Son éclat dure. Honnêteté d'un métier dans les marges des gains de productivité et le cœur désire, désirer encore. Bien final, immatériel, né de fabrique et de glaise. D'une survivance de la matière, naît sans cesse et le désir. Paradis, dont le cercle rampant s'écarte, loin du muflisme des colons, financiers et docteurs. Alors l'homme pose sur le support de bois, sur le format de pensée ce jour-là, la pâte qui tient son rôle, et la matière livre sa rugosité d'écorce et sa délicatesse de peau. Pendant que l'œil veut, une forme naît. Et l'homme fabrique l'arbre en l'épousant, pour que l'arbre ne meure pas, pour que l'arbre ne meure que d'un crime, non pas d'être. Pour que l'arbre totem survive à l'œil et aux mains, dans l'œil du prochain clampin qui abordera de l'œil l'arbre. Et l'homme accroche son visage à l'arbre. Non pour nommer l'arbre à son visage, mais pour que visage d'homme, n'importe quel ce visage d'homme, continue d'envisager le monde. Les nuages, la physionomie du monde. Pour dire qu'un homme a passé parmi les nuages et qu'il a relevé de ses longs ongles affûtés comme des pinceaux le rouge des cochenilles sur les chaînes kermesse et le trajet des serpents sur le sable des déserts. Pour dire que la fille d'un potier, un jour, a tracé sur un mur l'ombre de son fiancé afin qu'il ne meure pas, afin qu'elle ne meure pas, et le potier, le père, a rempli les quarts de sa trace féconde. Et la peinture s'est inventée dans l'obscurité incestueuse qu'un tracé passe partagé. Fut une aurore, cette mille et unième nuit, dans un Ouarzazate quelconque, parmi les fils et les filles et des cousins des frères. Et tout ça fut grégaire. Fut grégaire, la peinture du peintre tenue par sa tribu, la tenant en symbole et en joie. La peinture est endogame. L'étranger, c'est le peintre, le narrateur. L'insolite, c'est l'oiseau, quand on perd le nom de fer. L'étranger, c'est le lieu où se déplie ailleurs, accouché d'ici trop. Et l'arbre, au visage d'homme, voit l'oiseau déposé sur ses rudements d'écorce des consonnes bleues de plastique et de fleurs, sans discernement que d'éclat, sans intention que de ravir sa belle, l'appeler de ses rimes à trilles. Ainsi, des voyelles s'éparpillent sur l'armature des consonnes qui battent la pensée, nous étions à Tanger. Sur les consonnes du Darija qui croit, Décantos achève une langue en semant le muet dans le bleu du ciel. Et le conte s'invente, ou parler va sans dire, car il fut sans mots, infance, dans la parole ailée de la peinture transfrontalière. Si on en fait de la langue, c'est pour qu'elle passe les murs après que la peinture ait foulé les frontières. Et le temps, avions-nous rendez-vous ? Car voici que repoussent nos ongles d'anciens cueilleurs et qu'ils tirent l'écarlate de notre oubli, actualisé soudain par ce n'importe quel artiste, Memoun, ce jour ou Tabal, qui vient de séparer de poids mon œil dans une rue de Tanger que j'avais au dado. Bel oubli, avec toutes les bêtes, diables et légendes, chèvres et crapauds, saxifrage et prières, reliés sans hiérarchie, quelle religion, par les humeurs cardinales d'un et de fer, sans l'île noire et la jaune et le flemme. Cardinalité au repli sinueux du cortex qu'on n'a pas replié dans la boîte. Sillon, rotation, révolution, et l'écliptique, et toutatis, éclipse, et collision à toutatis. Déborde et dépense, petit homme. C'est une religion de la vitalité, pelle folle, avec un peu de sueur d'abeille et de conscience de femme, de bave à parole, de pisse à Delphes et d'urine de tous. Un jean, à passer là, faire flamber la couleur et brûler les frontières entre le savoir et l'illusion. Où est la réalité ? Genèse, exode, sacrifice, clameur, cantos, cantos. Exil et bénévole, dit-elle. Rodado, dit-elle. Peinture, anthropophage, herbivore et coprolalique. Tout est bon pour nourrir tes petits, dit-elle. Je peins, dit-elle. Dans le soudain monde, au milieu de Tanger, surgissent d'une galerie d'arbres paléolithiques inférieurs et la grande ombre de notre ignorance, les hordes menacées, l'espace immense. Au fond de cette nuit mille fois millénaire, les racines de la nature humaine jouent à décorer d'acanthes et de points bariolés le cadre du regard. Et l'homme se prend à parier la couleur sur l'orgasme de la matière. Et l'homme invente l'instant d'avant. L'homme peint. Elle dit le blé d'un seul pain. Elle dit aurais-je un ami pour aller à la fin ? Un artiste ? Une définition. Un idiot, dis-je. Remplaçons artiste par poète. Art contemporain par art poétique. En gros, retirons l'argent de l'affaire, pour voir. Juste pour voir que s'attarde l'homme de Ouarzazate ou d'Arles ou de Messine, en prise au songe, parmi son peuple de ventres affamés, de signes et d'enfance, avec son bestiaire, avec son désir. Alors, l'artisan perd le nom de fer, c'est un artiste, un inutile, un miraculé de la société, un frère. La tarder là.
Puisqu'on en est au temps des applaudissements, peut-être qu'il faudrait un concert à la CIPN, qui est un acteur de poésie. C'est très rare, très rare. Et ça mérite.
Son directeur, l'ensemble de son personnel qui, voilà, qui fait en sorte que ce salon fonctionne, qu'on puisse écouter les poètes, qu'on puisse circuler, tout ça. Voilà. Je vous remercie et j'espère une année de futur.
L'année prochaine. Comment on arrête ça là? Comment j'arrête? Comment je l'arrête? Qu'est-ce que tu fais?
Ah pardon, c'est bon.